Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouverons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Cette semaine, j'ai fait le choix de me rendre à la Maison Saint-Paul pour y retrouver notre évêque, Monseigneur Jean-Marc Mika. Nous sommes à la fin d'une saison pour moi de chronique verte et donc j'avais souhaité, et je le remercie par avance d'avoir accepté, recueillir un petit peu son regard sur le rural du diocèse, sur l'église en rural, et puis également pour voir un petit peu dans la démarche que peut entreprendre les congrégations, les paroisses, les mouvements, un petit peu la démarche la belle église verte. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Benoît.
Donc, Monseigneur, je ne vous demande pas de vous présenter, je pense que tous nos auditeurs vous connaissent. Donc je vais passer directement à la première question. Vous avez fait là toute une phase de visite pastorale sur l'ensemble du diocèse. Et donc en particulier, vous avez aussi rencontré le rural de la Bigorre. Et donc ma première question va là, un petit peu quel est votre regard, qu'est-ce qui vous a surpris, qu'est-ce qui vous anime après ces visites?
Alors, je vais partir de la question « qu'est-ce qui m'a surpris ?». De fait, j'ai été surpris par la jeunesse de grand nombre de personnes que j'ai rencontrées, dans des exploitations diverses, des activités du monde agricole diverses. Il y a beaucoup de jeunes. Ça a été une surprise pour moi. Et parce que à l'occasion des visites pastorales, chaque fois, je tiens à rencontrer non seulement la communauté chrétienne, mais aussi les réalités locales, économiques, politiques, sociales, etc. Et donc, de fait, j'ai rencontré pas mal de personnes du monde agricole. Alors, la jeunesse et puis l'initiative, l'inventivité. Ça aussi, ça a été pour moi une découverte, une heureuse découverte. Enfin, alors, j'avais déjà été alerté un peu là-dessus en participant à Terre d'Espérance à Châteauneuf-de-Galore en 2022, au printemps 2022. Et de fait, je vois à quoi ça peut ressembler sur le terrain. Et la troisième chose qui m'a, alors je dirais pas surpris, mais qui me marque, c'est ce qui s'est exprimé au moment des manifestations, des agriculteurs, des blocages des ronds-points, de l'autoroute pour nous, etc. C'est la détresse de grand nombre de petits entrepreneurs, de petits exploitants. J'ai vu vraiment des gens en détresse, en grande détresse, au bord des larmes, en me racontant leur situation. Des gens très très courageux qui ont investi, qui ont créé quelque chose qui ne pouvait pas ne pas marcher et qui de fait marche bien. Sauf que leur bonne volonté, leur engagement, leur courage, leur travail est mis en péril parce que l'abattoir de Bagnères va fermer, parce que voilà des choses qu'ils ne maîtrisent absolument pas, indépendamment d'eux, et auxquelles il n'y a pas de solution. Et j'ai vu des gens vraiment, vraiment en grande détresse. Voilà, ces trois choses-là, la jeunesse, l'inventivité et puis la détresse de certains.
Alors, Monseigneur, au regard de ces visites, également, peut-être recueillir votre regard aussi sur l'Église en rural elle-même. Comment vous l'avez perçue? Comment vous la voyez vivre aujourd'hui?
D'abord, c'est une réalité pour nous qui est très très prégnante, hein, puisque 80% des communes du département ont moins de 100 habitants. Ces communes, alors évidemment, il y a l'axe Tarbes-Lourdes qui regroupe la moitié de la population du département, deux doyennés pour nous. Mais après, il y a tout le reste du département, donc du diocèse, quatre autres doyennés, une trentaine d'ensembles paroissiaux pour l'ensemble du diocèse, donc qui est évidemment très très marqué par la réalité du monde rural, du monde agricole, pour ce qui nous concerne aussi, donc, en termes d'activité économique. Et voilà, de visite en visite, j'ai pu rencontrer des communautés chrétiennes qui sont implantées sur ce territoire-là. C'est très variable selon les régions. Déjà, le sud et le nord du diocèse, ce n'est pas du tout les mêmes réalités. Hein. Le sud, c'est les vallées des Pyrénées, avec l'activité économique propre à ces vallées-là, et qui marque la personnalité, la couleur des communautés chrétiennes elles-mêmes, avec des gens qui peuvent être là, venus d'ailleurs, qui ont acheté une maison de vacances là, qui ont pris racine là, et qui apportent, comme toujours, quand on vient de l'extérieur, un regard neuf, un engagement neuf, des formations qu'ils ont pu vivre ailleurs. Et puis le nord du département, qui est une autre réalité, que j'ose qualifier d'un peu plus pauvre, de plus dispersé, qui a une vraie, vraie personnalité aussi sur les deux doyennés du nord, du nord du diocèse, avec des chrétiens qui sont courageux également, engagés, mais qui prennent acte d'une réalité socio-religieuse qui a évolué très très vite ces dernières années et décennies, hein, avec une baisse de la pratique très forte, un vieillissement très fort des populations, et qui n'ont pas connu, comme ça peut être le cas dans le sud du diocèse, d'apport de populations venues d'ailleurs plus jeunes.
Alors Monseigneur, j'en profite puisque je suis avec vous. J'avais interrogé sur ce sujet Monseigneur Noblot il y a quelques émissions maintenant, autour de cette démarche qu'il souhaitait entreprendre sur son diocèse concernant le ministère des laïcs intégré. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au contexte actuel
À mon avis, c'est très opportun. C'est une décision du pape dans laquelle il invite toute l'Église à s'engager résolument. Il se trouve que les évêques de France m'ont élu pour présider un des six pôles de la vie de notre conférence épiscopale. Et précisément, c'est le pôle acteur de l'Église donc, que je présiderai à partir de l'été prochain. Celui qui va être chargé de mettre en place les repères et puis accompagner les diocèses, les évêques qui veulent se lancer dans cette aventure. Alors forcément, je me sens interpellé pour moi-même et pour nous ici. Et il me semble qu'il y a là un apport qu'il va être intéressant de creuser. Et c'est un des objectifs de la journée diocésaine programmée pour le 7 décembre que d'examiner l'opportunité et la pertinence de se lancer dans cette aventure. Ça veut dire d'appeler des gens, de les former, puis de célébrer avec et pour eux le ministère de l'institution, de lecteurs, d'acolytes, de catéchistes. Alors catéchistes, ça ne veut pas dire les personnes qui font le caté, hein, comme on l'entend chez nous, mais au sens où on l'entend dans les pays de mission, c'est-à-dire des laïcs, hommes ou femmes, appelés, parce que formés aussi, à être responsables de communautés chrétiennes dont les prêtres sont géographiquement plus éloignés. Voilà. Et donc, on étudiera la possibilité de se lancer dans l'aventure. On a désormais les outils, les repères qui sont là, à disposition, et chaque diocèse mesure le bon moment pour lui.
Merci, Monseigneur. Donc, nous étions rencontrés la première fois, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, à l'occasion de Terre d'Espérance. Et Terre d'Espérance, le fil rouge, c'était donc Laudato aussi. Et donc toutes les initiatives qui étaient prises dans ce cadre, dans le cadre de la transition écologique et surtout de la conversion intégrale. Aujourd'hui, justement, cette dimension Laudato aussi sur le diocèse et aussi sur le rural, du coup, comment vous la percevez dans la vie quotidienne, que ce soit des acteurs impliqués, hein, des religieux ou même des laïcs qui font église?
Je vais oser formuler les choses à partir du contexte dans lequel nous sommes, qui est le contexte des élections législatives. J'ai osé proposer modestement un petit texte de réflexion et de repère pour les fidèles catholiques du diocèse, qui voudront bien s'y intéresser et éventuellement réfléchir à partir de ce que j'écris là. La vision que donne la foi des choses, du monde, de son histoire, de l'organisation, de la vie commune, de la vie de la cité, donc au sens noble du terme de la vie politique, tout cela concerne la foi et l'engagement des chrétiens dans la gérance de la création, c'est-à-dire de tout le créé. Et comme l'écrit le pape avec force, insistance dans Laudato Si, et puis l'autre texte qui le complète, plus récent, tout se tient. Et donc l'écologie, c'est l'écologie intégrale. C'est pas seulement le respect de la nature, des animaux, de la création, mais c'est aussi la manière de vivre en société, entre êtres humains. Et tout se tient. Et donc, en effet, il y a une manière d'organiser la gérance de la création qui ne doit pas être déconnectée d'une manière d'organiser la vie en société. Et donc le regard de la foi était éminemment important pour les fidèles du Christ pour déterminer leur propre manière de s'engager dans tout cela eux-mêmes et donc, en l'occurrence, de mettre un bulletin de vote dans une urne et puis de s'engager en fonction des charismes des uns des autres, des compétences, des désirs, du temps disponible, tout ce qu'on voudra, de s'engager, mais résolument, vraiment. Alors, pour ce qui est du label Église verte dans lequel l'Église s'est engagée depuis la COP21, me semble-t-il. Je souhaite vraiment que notre diocèse, que les paroisses, que la maison diocésaine, que la curie du diocèse, que les écoles catholiques, que le sanctuaire de Lourdes, alors le sanctuaire de Lourdes s'y est engagé déjà, mais je souhaite vraiment que tous on se sente concernés par cela, parce que c'est pas déconnectable du reste. Et donc, voilà, de bien considérer les choses du point de vue de la foi, dans leur globalité, leurs interactions, et être en cohérence avec ce que dit la foi, de la vie du monde, de la vie des hommes, de là d'où on vient, de là où on va, et de notre participation à cette œuvre de Dieu qui est en cours.
Alors peut-être, Monseigneur, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas tous obligatoirement le label Église verte, rappeler un petit peu ce qu'il est et comment il se déploie actuellement.
Alors c'est un label donc voilà bon qui comporte plusieurs degrés au fur et à mesure que l'on met en place des dispositifs et des manières de faire, de vivre qui enclenchent des façons différentes de se comporter. Et de se comporter aussi bien personnellement que institutionnellement. Alors ça peut commencer par le premier niveau me semble-t-il, c'est le fait de s'inscrire auprès de l'instance qui gère ce label, de dire ben, ça y est, on se lance dans l'aventure et on désigne quelqu'un dans le diocèse qui va porter l'accompagnement pour devenir tous plus vertueux les uns après les autres, ou tous ensemble, chose après l'autre. Voilà. Puis niveau suivant, c'est on met en place une manière de gérer les déchets, une manière d'économiser l'eau, une manière d'utiliser des énergies renouvelables, en fait, etc., etc. Il y a toute une progressivité dans le label, mais qui nous aide à être toujours plus vertueux, plus sobre, de réfléchir, est-ce que ce qu'on va faire là, la dépense qu'on va engager, elle est bien dans la perspective de cet idéal formulé par Laudato Si, ou est-ce que c'est, ben voilà, on reproduit nos habitudes sans se poser de questions. Voilà, c'est vraiment une invitation à nous interroger sur nos manières de vivre pour nous engager délibérément dans une manière de vivre autre, par respect pour la création, mais par respect aussi pour notre vocation. On est trop déconnecté du fait que notre vie professionnelle, familiale, privée, personnelle, etc., elle est concernée par l'enseignement doctrine sociale de l'Église et, puisque dit la foi, de la vie du monde.
Monseigneur, on est à la fin de cette interview et donc, comme je le fais chaque fois, simplement vous demander si vous aviez un vœu à exprimer auprès des auditeurs en cette fin de saison, dans cette période si particulière que nous vivons fin juin.
Bien, d'abord, je vous remercie, Benoît, vraiment de l'existence de cette émission. Et le vœu que je formule, c'est que toutes et tous, nous soyons toujours plus attentifs. Vraiment le mot, d'habiter le mot que je formule là, d'être vraiment attentif à qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, et à ce que la foi nous donne de poser comme regard sur le monde, sur son histoire, sur la création, sur les autres, sur tous les habitants de cette planète, et d'ajuster nos pensées, nos paroles, nos regards, nos comportements, nos décisions, nos actes, en conformité autant qu'on le peut avec cette foi-là.
Merci infiniment, Monseigneur. Je souhaite à nos auditeurs un bel été, puisque nous nous retrouverons maintenant en septembre. Et puis, donc, je souhaite à tous et à chacun de vivre un été dans la fraternité. Au revoir à tous.